fonctionnaires, certains chercheurs peuvent faire de PISA. Parce que ça vaut la peine de réfléchir à ça. PISA, c'est des chiffres. On en a vu défiler pas mal là, dans la présentation de M. Brochu et dans celle de Jake. Et si vous lisez les documents de PISA, vous allez... Enfin, moi, personnellement, ce qui m'a frappé, c'est ce que j'ai appelé la retenue de l'OCDE dans l'interprétation de ces données. C'est comme si elle disait, voici les grandes tendances, voici les grands résultats, voici où vous êtes comme pays dans le palmarès. À vous d'expliciter les raisons de ces résultats-là et ce qu'il y aurait lieu de faire, soit comme correctif ou soit comme constance. Et je crois que c'est voulu de la part de PISA, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un sous-texte qui laisse sous-entendre des choses et qui pointe du doigt plus certains résultats que d'autres. Alors, PISA, donc, est annoncé, est diffusé dans les différents pays et, comme je le disais tout début de l'après-midi, ça a un impact médiatique considérable. Et il y a une diversité d'acteurs qui reçoivent cela. Bien sûr, les médias, et à travers les médias, l'opinion publique, les élites politiques. Il arrive souvent que des ministres se font poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi sommes-nous en chute libre? Etc., etc. Et puis, aussi sont mis à contribution les scientifiques et les experts en éducation qui travaillent soit dans les structures d'État, les organisations internationales et dans l'enseignement supérieur. Il y a donc une certaine machine à construire, une interprétation, je vais dire ça comme ça, une machine qui produit inévitablement une conversation publique autour de PISA. Et cette conversation, ça peut varier selon les pays, selon les endroits, selon les contextes, mais elle peut porter sur l'un ou l'autre de ces quatre points-là, c'est-à-dire sur PISA lui-même, qu'est-ce que c'est? C'est quoi les outils? C'est quoi son ambition? C'est quoi ses fondements scientifiques? Sur ce qu'elle fait. Alors, je vous donnerai des exemples où on fait un topo sur PISA pour le remettre en cause. Okay. Mais plus souvent, on va laisser le premier point à des experts ou à des scientifiques, mais souvent, on va trouver beaucoup de discussions sur le rang du système d'éducation nationale par rapport à celui d'autres pays auxquels ce pays-là entend se comparer, soit donc par rapport à d'autres pays, ou soit dans le temps, comme M. Brochu a pu le faire un peu entre 2003, 2006, 2009 pour les études qui ont été faites trois fois. Même si j'ai souvent lu que l'OCDE n'accorde pas d'importance à la mise en rang, les données sont présentées comme un palmarès, comme une mise en rang, et avec des analyses statistiques autour de la moyenne, qui est significativement au-dessus de la moyenne, qui est en dessous, etc. Donc, la question du rang, elle est inhérente à l'instrument, enfin, à la présentation de l'instrument lui-même, et il y a inévitablement, dans la plupart des pays, une conversation autour du rang, soit pour péter les bretelles, comme on dit en bon québécois, ou soit pour, au contraire, s'auto-flageller sur la place publique lorsqu'on dégringole. Bon. Troisièmement, la conversation porte aussi très, très souvent sur les explications. Pourquoi on est bon? Pourquoi on se maintient? Pourquoi on descend? Pourquoi la Corée ou Shanghai, comme ça, là, hop là, dès le premier coup, supplante tout le monde? Quels sont les facteurs internes au système éducatif? Et souvent, on discute du fric, des facteurs socio-économiques, socio-culturels, familiaux, le curriculum, c'est de la faute de la réforme. Ou bien on cherche ailleurs, parce qu'on peut très bien se dire, on n'est pas si mal, mais il y en a d'autres qui nous supplantent. Hein? Alors, c'est quoi la recette du miracle finlandais ou des tigres asiatiques? Il y a beaucoup de propos publics là-dessus pour essayer d'expliquer notre position. Et puis aussi, inévitablement, il y a dans la conversation une identification et un appel à l'action pour que des solutions internes de divers ordres, qui peuvent être institutionnelles en termes de centralisation, décentralisation, autonomie, gouvernance, ou bien qui sont plus substantielles comme le curriculum, la qualité de l'enseignement, les programmes d'évaluation proprement nationaux. Il y a un agenda de changement associé souvent à la conversation publique autour de PISA. En ce sens-là, c'est pas insignifiant la publication de PISA et les retombées. D'une certaine façon, PISA est incontournable dans le débat sur l'éducation. Je crois qu'on peut, on peut soutenir ça. La réception de PISA dans les différents pays, elle varie. C'est une activité collective faite par l'ensemble des acteurs dont je parlais tout à l'heure, soit d'acceptation, de refus ou de négociation des messages. Et vous allez voir tout à l'heure que parfois on refuse certaines choses. Et puis, ça procède de ce qu'on pourrait appeler l'interface entre le scientifique et le politique. Je voudrais illustrer cela. C'est assez impressionniste ce que je vais faire, parce que je n'ai pas eu le temps. Au moins pour ce qui est du Canada et du Québec, c'est extrêmement impressionniste. Mais j'ai eu la chance d'avoir accès à un numéro de revue, de la revue... portugaise de sciences l'édu, qui est entièrement consacrée à la réception de PISA, et où des collègues français, anglais et belges ont fait des analyses dans le cadre d'un projet de recherche que Christian connaît bien, Knowledge and Policy, où on fait des analyses de la réception de PISA dans leur pays, et je vais vous en présenter quelques-uns à titre illustratif. Puis on essaiera, si ça vous tente en discussion ou après, de essayer de placer un peu mieux le Québec et le Canada dans cette conversation internationale-là. Encore une fois, ce que je veux dire pour le Canada et le Québec, c'est extrêmement impressionniste. Je me suis amusé à regarder quelques journaux depuis le mois de décembre. Les résultats sont sortis. Quelques journaux canadiens-anglais de Toronto. J'ai pris le Globe and Mail et puis le Toronto Star, qui sont des journaux à rayonnement un peu national. Et puis j'ai pris pour le Québec, j'ai pris La Presse, Le Devoir, et puis... La Gazette, parce que La Gazette est aussi pour le Québec. Alors, je vous donne les titres que j'ai pu trouver. Je n'ai pas trouvé tant de textes que ça. J'ai trouvé 6 ou 7 pour le Canada anglais. Et je vous donne les titres. « Canadian students perform well regardless of socioeconomic status. »« How Canada is becoming outclassed in school. » Une manchette du Globe and Mail. D'une journaliste qui prétend que c'est ce que j'appelle le thème de la glissade. Le Canada glisse depuis 2000. Et il faut qu'il fasse attention. How Canada is becoming outclassed in school? À laquelle a répondu un collègue que certains connaissent, enfin, un journaliste, mais qui est un collègue de La Première, que vous connaissez peut-être, Jeffrey Simpson, qui lui tient tout à fait le discours contraire. Le Canada n'est pas en déclin, et c'est pas parce qu'il y a quelques petites provinces peu populeuses qui sont en dessous de la moyenne qu'il faut s'énerver. Les provinces les plus populeuses, c'est-à-dire le Québec, l'Ontario, l'Alberta et la Colombie-Britannique, continuent. Donc, ne nous énervons pas. Il y a un petit débat au Canada anglais sur y a-t-il déclin ou pas? Y a-t-il déclin ou glissade? J'aime bien l'expression glissade parce que c'est slipping, c'est le terme anglophone qu'ils ont utilisé. Et qui est repris dans le quatrième titre, Canadian Students Slip in Rankings. Et puis les deux derniers textes portent sur une tentative d'expliquer le miracle de Shanghai, que l'on explique par des habitudes d'apprentissage, rote learning axé sur la mémorisation, la discipline scolaire très forte, etc., etc. Qui est quand même étonnant, parce que PISA n'est pas supposé mesurer ça. Mais c'est l'argument qu'on utilise. On dit que les Asiatiques font de la drill, sont très rigoureux, les élèves sont disciplinés, ce qui devrait leur nuire sur PISA d'une certaine manière. Mais bon, l'argument, c'est celui-là qu'on maintient. L'autre texte porte sur « The myth of the brainy immigrant ». C'est ça va, hein, ça nuance ce que vous disiez, c'est qu'on utilise PISA pour montrer que oui, il y a des groupes d'immigrants qui, en fonction de leur origine nationale, fonctionnent très bien, mais ce n'est pas vrai de tous les groupes. Et on identifie les groupes. C'est des analyses un peu plus fines, et non pas à l'échelle du Canada. C'est tout ce que j'ai pu trouver. Ce qui m'a frappé, quand j'ai essayé de ramasser ça en disant c'est quoi le message dans les journaux canadiens anglais, c'est, la première chose, c'est que tout le monde réfère aux données. Et ils se servent des données. Et il y a des chiffres. Les données parlent d'elles-mêmes, d'une certaine façon. Attention, on glisse. Et c'est lié au fait qu'il y a de moins de bons élèves et d'élèves faibles. Là, ici, je devrais dire que, oui, c'est des journalistes qui écrivent ça, mais c'est des journalistes qui interviewent du monde. Puis les gens qui interviewent, Lester, là, c'est votre patron, le président le directeur général du CEMEC, c'est Paul Capon, le directeur du Conseil canadien de l'apprentissage, c'est un expert de l'OCDE, Schleicher, et puis c'est M. Hugonnier,
également de l'OCDE.
Qui est également à l'OCDE, et qui, eux, tous les quatre, tiennent ce discours-là, le Canada glisse. Pour moi, c'est un point insignifiant de constater que c'était ces quatre personnes-là qui étaient interviewées. Je n'ai pas vu de traces d'hommes politiques canadiens qui réagissent à PISA. Mais même si on est en train de glisser un peu, puis même si on est dépassé par des pays plus performants, il n'y a pas lieu de paniquer et de faire une remise en cause fondamentale, puisque, comme je le disais tout à l'heure, les provinces les plus populeuses performent bien en termes d'efficacité et d'équité. Et après tout, c'est jamais dit, mais c'est toujours implicite, on est meilleur que les Américains.
Des fois, c'est dit.
Hein? Des fois, c'est dit, mais je ne l'ai pas trouvé là. Mais c'est évident qu'au Canada anglais, on est meilleur que les Américains. Alors, il n'y a pas de quoi s'énerver. Bon, les manchettes québécoises. J'ai presque envie de le mettre sur le site du CRIFPE, le texte d'Alain Dubuc. Parce que vous connaissez Alain Dubuc. C'est pas un de nos amis ou un de nos alliés. Et Dubuc sort un texte époustouflant, louangeur, sans aucune espèce de réserve ou de bémol, sur la performance du Québec. Et le titre dit vraiment ce qu'il veut dire. On est vraiment très bon. Et il s'amuse un peu parce qu'il a lu les textes anglophones. Il dit franchement, les Canadiens anglais s'énervent un peu. Là. Mais en tout cas, nous, au Québec, on ne glisse pas. Et il n'y a pas lieu de revoir quoi que ce soit. Et surtout pas de remettre en cause les grandes orientations politiques que nous avons. Le Devoir, comme d'habitude, a un point de vue un peu plus modéré ou un peu plus, au moins au niveau de l'éditorial de Mme Chouinard. Elle constate que ça peut donner lieu à toutes sortes d'interprétations, peut tirer la couverte de toutes les manières, et elle essaie de dire, mais ma foi, c'est pas évident. Constatons les bons résultats et inspirons-nous-en, mais il n'y a pas lieu de tirer des conclusions très fortes en termes de relations cause à effet. C'est un peu ça son message. Oui, on est bon, mais la barre continue à monter, hein, avec des pays qui nous rattrapent ou qui nous dépassent, et qu'il faut donc continuer à s'améliorer pour maintenir notre avantage concurrentiel. C'est le message qui vient du CEMEC. Qu'il y a lieu donc de continuer à performer. Il y a un texte qui essaie d'expliquer pourquoi l'Ontario fait des gains prodigieux, et on associe ça à certaines politiques récentes qui semblent avoir donné des résultats en lecture. Ce texte-là est complété par une entrevue avec des collègues de Trois-Rivières, que je nommerai pas, qui disent « Arrêtons de nous remettre en cause, nous sommes meilleurs au Québec que toute la francophonie. On est meilleurs que les Français, on est meilleurs que les Belges, on est meilleurs que les Suisses francophones. » Alors, ça suffit, la critique de la qualité de l'éducation au Québec. Je passe par-dessus le texte de la Gazette, parce qu'il est du même acabit. Et je veux dire un mot sur le texte de Christian Rioux, parce qu'il détonne par rapport à tous les autres. Rioux démolit Pisa comme instrument et démolit les arguments que certains Québécois utilisent pour se satisfaire des résultats. Je vais m'expliquer là-dessus, mais c'est un peu comme si au Québec, on avait plusieurs discours sans qu'il y ait quelque chose qui domine aussi clairement que ce que j'ai pu identifier pour le Canada anglais. Mais encore une fois, c'est très impressionniste ce que je vous dis là. Ça ne tiendra pas la route dans 6 mois. Mais c'est comme si certains journalistes avaient lu ce qui s'était dit au Canada et reprennent un petit peu l'argumentaire du Canada anglais avec des petites nuances. Ou bien, comme dans le cas de Christian Rioux, on reprend l'argumentaire français dont je veux parler. Okay? Comme si Christian Rioux faisait une chronique qui devait être lue par ses amis français qui critiquent Pisa. C'est comme si on avait les deux, un point de vue proche de l'anglophonie et un point de vue proche de la francophonie. Mais au total, je n'ai pas trouvé grand-chose pour le Québec. Et peut-être cela s'explique parce que lorsqu'on est au-dessus de la moyenne et qu'il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter, Pisa n'est peut-être pas un enjeu au niveau du débat public si fort que ça. Il va rassurer, il va légitimer certaines choses, il va apaiser les débats ou les tensions autour des politiques controversées. Parce qu'il va forcer ça, les personnes qui seraient radicalement opposées à certaines politiques, il va les forcer à mettre un peu d'eau dans leur vin. Après tout, les anti-réformes ne peuvent pas dire que c'est une catastrophe. S'il y a un lien entre la réforme et les données de Pisa. Bon, c'est une hypothèse que je soumets. Et dans le cas du Québec, je suis incapable de tirer une image aussi claire que j'ai pu le trouver pour le Canada anglais. Quelques cas de réception et d'analyse surtout de la réception. Et dans ce cas-là, ce n'est pas du tout impressionniste. C'est des études qui ont été faites par des collègues de différents pays. Et pour l'essentiel, c'est soit l'analyse des médias ou soit des entrevues ou les deux ensemble avec la haute fonction publique, des chercheurs, des décideurs, des politiques, etc. Et le cas de la France est intéressant, en partie parce que ça résonne toujours chez nous. Comme je le disais, des chroniqueurs comme Rioux sont très, très au courant de cela. Nathalie Mons, dont tu parlais tout à l'heure, Jake, et Xavier Pons ont fait une analyse de la réception de Pisa en France sur une longue période à travers les médias. Et ils ont identifié 2 argumentaires. Un qu'ils ont appelé l'argumentaire du biais et l'autre qu'ils ont appelé l'argumentaire de la gouvernance idéale. On est dans un contexte où les résultats de la France sont assez mitigés. Oui, on peut dire ça. Elle est dans la moyenne ou...
C'est un peu plus bas.
Un peu plus bas.
Ça baisse. Les Français sont assez... sont pas trop contents
des résultats. OK. Alors, Mons et Pons ont constaté que... Au sein de l'appareil d'État, au sein de l'ADEP, la Direction de l'évaluation et de la prospective, ou là où il y a des spécialistes et des experts en évaluation, dans les universités, dans les instances qui tournent autour de ces choses-là, il s'est développé, il s'est médiatisé un argumentaire pour expliquer les résultats français de Pisa. Et l'explication, l'argumentaire qui est là, c'est de dire au fond, c'est l'instrument qui n'est pas bon. C'est l'instrument qui n'est pas bon. Système scolaire français, pour dire les choses comme ça, là, mesure des connaissances, est axé sur la transmission culturelle. PISA, ça ne mesure pas ça. C'est un machin anglo-saxon. Axé sur les compétences. Il y a un biais culturel qui ne respecte pas la conception française de l'éducation. Et si je comprends bien leur texte, cet argumentaire-là a eu un certain succès. A eu Et là, je ne les lis pas tous les cinq, là, mais c'est un argumentaire de cet ordre-là, qui est de l'ordre à la fois méthodologique et culturel, pour dire que il n'y a pas lieu, on ne remettra pas en cause le fonctionnement et les orientations et les finalités du système éducatif français. Cet instrument-là n'est pas approprié à notre réalité, à l'exception française, on peut dire ça comme ça. OK? Il se serait développé avec le temps un second argumentaire, en partie produit par des professionnels et des experts de l'OCDE, ou des gens à l'intérieur de l'appareil d'État qui se disent « bon, ben, il n'y a peut-être pas juste la question de l'instrument, on peut peut-être regarder ailleurs ». Et là, Mons et Pons appellent ça l'argumentaire de la gouvernance idéale, et qui explique les résultats mitigés de la France par des questions associées à la centralisation-décentralisation, c'est-à-dire l'insuffisante autonomie des établissements, et donc leur incapacité de s'ajuster de manière efficiente aux réalités du terrain, la nature inégalitaire du système éducatif français, le caractère sélectif de l'enseignement secondaire, les effets pervers et cumulatifs des retards des élèves, l'action ciblée est intense, mais limitée à propos de la persévérance scolaire. D'autres facteurs, comme le découragement des profs, le climat de l'école, etc. Bref, un argumentaire qui dit qu'il y aurait peut-être lieu de revoir certaines pratiques. L'analyse que fait Mons et Pons est à l'effet que le premier argumentaire a été très fort au début de la décennie, et que plus la décennie avance, il tend à être remplacé par l'autre. Vous voyez donc que les mêmes résultats, ou à peu près, les mêmes résultats, sont reçus différemment, à différents moments. Et que malgré tout, de manière incontournable, ils nourrissent un débat. Okay? Bon, le cas de l'Écosse est intéressant parce que c'est un petit pays comme nous. Et... Le texte de Greek, Lahn et Asga, qui procède essentiellement par des entrevues avec des hauts fonctionnaires et des politiques, et non pas par des analyses de médias, est intéressant, j'allais dire, parce qu'il montre comment PISA peut servir des fins nationales. Dans le cas de la France, c'est comment PISA est venu perturber une certaine image de la France qu'elle pouvait avoir sur le plan éducatif. Ici, l'Écosse utilise PISA à des fins de reconnaissance internationale. C'est un petit pays qui a souvent été mis à l'intérieur du Royaume-Uni dans des études internationales et qui, semble-t-il, plus PISA avance, plus réussit à se faire une place, sa propre niche, et non pas comme noyé dans le grand ensemble du Royaume-Uni. C'est un peu comme si le Québec pouvait s'extraire du Canada. Je crois qu'il y en aurait qui ne seraient pas malheureux de ça, de la récupération politique qui pourrait se faire avec ça. Alors, les entrevues révèlent qu'au niveau des hauts fonctionnaires et des politiques, l'OCDE est perçu comme étant quelque chose de digne de confiance, qui produit l'étalon or de la recherche internationale en éducation, qui est donc crédible, qui est compétente, qui a une expertise, et qui est impartial. Okay? Il y a donc un branding dans les résultats PISA qui n'est pas insignifiant si on est un petit pays qui veut de la reconnaissance internationale et puis qui est bon. Okay? Alors, participer à PISA, c'est montrer aux autres nations que l'on adhère à l'ordre international éducatif, à l'agenda de réforme internationale et à la vision de l'OCDE. Et donc, ça nous intègre dans cet ordre éducatif mondial, même si ça peut nous amener à des reconfigurations de nos politiques. Pour autant que l'Écosse participe à PISA en tant qu'entité distincte, non pas comme partie du Royaume-Uni, comme je le disais, PISA permet à l'Écosse de se faire reconnaître comme un système éducatif distinct, membre du club, capable de se mesurer à des standards internationaux et d'être compétitif dans la cour des grands. Comme on dit au Québec, l'Écosse est sur la map. OK? Sur le plan politique et sur le plan symbolique, c'est pas rien. Au fond, ça leur coûte cher, mais ça leur rapporte un gain symbolique qui n'est pas rien. Ça se permet donc de se mesurer au meilleur et d'apprendre d'eux. Et pour une fois, on peut se mesurer à autre chose que l'Angleterre. Notamment les pays nordiques, le voisin, ce que les chercheurs appellent l'arc de la prospérité, enfin, ce qui était l'arc de la prospérité, les États nordiques, l'Islande, l'Irlande et la Finlande. OK. C'est un cas où PISA rassure l'Écosse sur sa performance de son système éducatif, parce qu'elle a une bonne performance. Même si elle ne poursuit pas tout à fait les politiques de l'OCDE, il n'y a pas beaucoup de... l'Écosse, semble-t-il, ne met pas un accent très prononcé sur des systèmes de high-stake evaluation. Elle ne suit pas tout à fait ce mouvement international-là. Mais malgré tout, les résultats sont bons, donc il n'y a pas lieu de se remettre en cause. Et donc, PISA sert comme outil de légitimation de la politique curriculaire nationale en place. Bref, pour l'Écosse, un investissement fort rentable, et donc quelque chose qui se reçoit très bien. Et dont on peut, au contraire, non pas remettre en cause le début du commencement et tout le cheminement, mais au contraire, faire valoir le sérieux et la valeur d'étalon international. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour un petit pays comme le Québec, si on se servait de PISA à des fins de promotion internationale. Bon. Le cas belge, je vais y aller très modestement, parce qu'il y a des Belges dans la salle.
Ils sont
peut-être susceptibles. Ça, je ne l'ai pas dit. Le cas belge est aussi intéressant pour le Québec d'une certaine manière. Il y a des sociétés qui se ressemblent à bien des égards. Les auteurs, c'est Éric Manger, c'est Manger, et puis Branka Katonar, que plusieurs d'entre vous connaissez. Traditionnellement, la Belgique est une société civile assez fragmentée. Il y a un terme savant là, que les auteurs utilisent, une démocratie consociationnelle, un État faible et décentralisé, autonomie des secteurs ou des piliers, un fonctionnement qui valorise la discrétion dans le double sens. Je ne cherche pas à savoir ce que tu fais, et puis je te laisse travailler tout seul. L'importance du compromis, la négociation. Bref, une société qui réussit à, tant bien que mal, à survivre parce qu'elle accommode ses différences, ses valeurs et ses intérêts divergents, et que c'est ça la priorité, trouver le compromis. Okay. Et pas nécessairement de respecter les données évaluatives scientifiques. Ce qui explique pourquoi, traditionnellement, si je comprends bien les auteurs, la question de l'évaluation de l'éducation, ce n'était pas un enjeu majeur, et que traditionnellement, il n'y avait pas beaucoup de données à l'échelle du système. C'est beau? Bon. Ce qu'il y a d'intéressant, ça aussi, me paraît important, PISA est relativement bien reçu, d'après ce que nous dit Manger et Katonar, parce qu'il est produit par une organisation externe, internationale. Il n'est pas produit à l'interne. On ne peut pas l'associer à un pilier de la Belgique ou à une communauté. Vous comprenez? On ne peut pas faire un procès d'intention. Ça vient de dehors. C'est neutre. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien pour donner de la légitimité à la démarche et à l'instrument. Et puis, les auteurs insistent pour dire que les résultats qui sont ainsi reçus, comme j'allais dire légitimes, sont incorporés dans les débats autour d'options politiques préexistantes, qui renvoient au clivage traditionnel entre les catholiques, les libéraux et les socialistes. Et puis, PISA est récupéré pour légitimer ou délégitimer les positions établies. Okay. Bref, il rentre dans le débat national et nourrit... Par des données qui deviennent des arguments pour soutenir les positions des uns et des autres. Ce qui faisait dire à Christian, ainsi qu'à M. Manger, on est plus du côté d'une politisation de la connaissance que de la rationalisation de la politique à partir de données scientifiques. Les auteurs utilisent ça aussi, ça me semble intéressant, c'est l'idée de démocratie de surveillance de Rosan Vallon, une faute là.
dans le sens où des États évaluateurs, des États nationaux évaluateurs, deviennent évalués par une instance internationale qui peut donc être utilisée par des usagers ou des sous-groupes à l'intérieur de l'État pour contester la politique de l'État. Comme l'arroseur arrosé. Les États nationaux, et surtout ceux qui se veulent l'évaluateur, insistent beaucoup sur les programmes d'évaluation. Mais là, on a un cas où PISA peut être vu comme une espèce d'épée de Damoclès au-dessus des États nationaux. Pour autant qu'il est évalué par un tiers, classé et comparé à d'autres pourvoyeurs de services éducatifs. Ce qui est intéressant. Ce tiers extérieur est légitime et son outil n'est pas ou peu questionné. Il apparaît neutre, non politisé, sauf peut-être en France. Alors qu'il véhicule de fait une vision spécifique de l'éducation, axée sur, comme je le disais au début, sur les compétences, le développement du capital humain, l'instrumentalisation de l'éducation au sein de la globalisation économique. Mais le fait qu'il soit perçu comme légitime lui donne une force réelle et significative. Bon, c'est des cas de figure, ça on aurait pu les multiplier. C'est des cas de figure où on peut constater que les chiffres que vous produisez, les analyses secondaires que tu fais, ne tombent pas comme cela dans un univers social indéterminé. Ou comme si les États et les systèmes étaient des éponges qui absorbent ça et qui n'y mettent pas du relief, ne cachent pas des choses, etc. etc. Bon. Et je crois que dans la discussion de PISA, il est tout aussi important de voir ce que l'on en fait, comment il est reçu, comment il est incorporé dans le débat public. À la limite, c'est tout aussi important que les chiffres même, d'une certaine manière. En ce sens-là, je soumets pour discussion quatre choses. La première, c'est que, à mon avis, PISA introduit, diffuse et universalise une manière relativement nouvelle de converser à propos de l'éducation. J'ai bien dit universalise, parce que plus PISA avance, plus il y a du monde à bord du train. Et bientôt, tout le monde va vouloir être sur le train pour faire partie du club. Le PASEC africain sera remplacé par PISA, si jamais on est capable de trouver du financement. Donc, PISA introduit, diffuse et universalise une manière particulière d'échanger et de converser à propos d'éducation. Et cette manière particulière-là, c'est par des chiffres, c'est par des classements, des benchmarks, des comparaisons de moyennes ou d'écarts. C'est une conversation qui se veut scientifiquement fondée et universellement valable. Les chiffres ont le même sens partout. Je suis au-dessus, je suis en bas de moyenne. Comme si les systèmes éducatifs perdaient leur couleur nationale, leur épaisseur historique, ils sont un paquet de chiffres. Comparé. En se développant, PISA élargit le cercle de la conversation internationale, accélère en son sein la circulation et la centralité d'un certain type d'informations, tous les trois ans. Et il augmente par le fait même la force d'un agenda de réforme éducative axé sur l'efficacité et l'efficience des systèmes éducatifs. Ça paraît évident. Il ne faut pas juste être dans le club, mais il faut performer dans le club. Pour performer dans le club, il faut, d'une manière ou d'une autre, avoir les politiques gagnantes. PISA introduit dans la conversation politique nationale les autres pays, les autres systèmes, et leur donne des identités. Le miracle finlandais, les tigres asiatiques, les bons élèves et les camps. PISA fait usage de la comparaison, le développe considérablement, et valorise une forme de comparatif. Et c'est ce que je disais, en ce faisant, c'est comme si les systèmes éducatifs perdaient leur épaisseur historique et locale. Ils étaient tous situés dans le même temps réel, celui d'aujourd'hui, celui d'évaluation. Et ils sont tous insérés dans la même course. Okay. qui n'est pas remise en cause. Voilà. Alors, l'effet de PISA sur les sciences d'études, c'est certainement la montée en puissance dans le champ des sciences d'éducation, de la mesure et de l'évaluation. C'est certainement le retour en force du quantitatif. Et puis, c'est certainement une valorisation de la recherche appliquée ou de workforce ou de ce qui donne des résultats. C'est pas rien. Puis, ça m'apparaît une tendance très lourde. Okay. Le deuxième effet sur les sciences d'études, ça concerne notre positionnement comme chercheur par rapport aux instances politiques. Sommes-nous en train d'éclairer les politiques ou sommes-nous en train de nous faire récupérer ou une partie de nos travaux être récupérés dans des entreprises de politisation de la recherche? C'est un certain nombre d'enjeux que nous pouvons discuter avec ainsi que tous les autres éléments qui pourraient vous intéresser. Mais pour l'essentiel, c'est ça que nous avions tous les trois à vous présenter cet après-midi.